Merci, Madame Talbot, pour cette belle musique. Et bon après-midi à chacun d'entre vous. J'ai apprécié la musique spéciale qui nous a été offerte. J'espère que vous avez passé une belle fête de l'Action de grâce. Nous nous rassemblons aujourd'hui et nous réfléchissons à qui nous sommes. Dieu nous a appelés de différents milieux de vie, de différentes expériences, et Dieu nous appelle à être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis pour que nous soyons ici. Il n'a pas encore choisi d'appeler nos voisins, ceux autour de nous. Ils sont en train de magasiner aujourd'hui ou de tondre le gazon ou de travailler, tout simplement. Ils ne sont pas ici aujourd'hui. Mais nous le sommes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis, nous a appelés à faire partie des prémices, des premiers fruits. En cette fin de semaine de la fête de l'Action de grâce, nous réfléchissons à ce à quoi nous devons être reconnaissants, ce pourquoi nous devons être reconnaissants. Il y en a beaucoup de choses à être reconnaissants, mais la chose la plus importante, je crois que c'est notre appel. Notre appel. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2. 1 Pierre 2, chapitre 2. Nous lisons ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous qui avons été baptisés, qui marchons dans le sentier de vie de Dieu, nous avons goûté à ce sentier de vie. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Une race élue, voyez-vous, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple spécial aux yeux de Dieu. C'est ce que vous êtes. Dieu vous a appelé. Un peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il cite Osée ici et il parle du fait que l'ancienne nation d'Israël qui avait obtenu miséricorde, mais qui ont perdu leur appel, ils ont cessé d'être son peuple, ils ont cessé d'être choisis parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais nous avons été choisis en tant que nation. Dieu travaille avec nous, une nation spirituelle. Parlons de ça un peu aujourd'hui, pendant quelques minutes. Et demandons-nous en particulier pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi? Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi personnellement? Si nous sommes une nation choisie, pourquoi est-ce que Dieu vous a appelé, vous a choisi maintenant, vous, personnellement? La réponse la plus directe, c'est « nous ne le savons pas ». Dieu n'appelle pas beaucoup de gens sages ou nobles, c'est ce que la Bible dit. En fait, nous n'apportons rien de bénéfique à Dieu en ce sens-là. Pourtant, il nous a appelés et il nous a appelés à établir une relation personnelle avec lui. Alors, pour quelle raison? Pourquoi vous a-t-il choisi, vous, personnellement? Voyons quelques raisons aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à tout ce dont nous devons être reconnaissants à Dieu au cours de cette fin de semaine de l'Action de grâce. Premièrement, Dieu vous a choisi parce qu'il sait que vous pouvez être mis au travail, que vous pouvez travailler. Il vous a choisi parce qu'il sait que vous êtes disposé à travailler. Certains sont des travailleurs ardus. Vous pouvez leur confier une tâche et partir. Et si vous revenez dans une heure, dans deux heures, dans une journée, dans une semaine, vous savez qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont accomplir ce que vous leur avez demandé. C'est un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils travaillent fort. Nous savons pourquoi l'Église existe aujourd'hui. C'est pour accomplir une œuvre bien précise. Alors, s'il vous a appelé, vous, aujourd'hui, c'est parce qu'il voit en vous une disposition à travailler et un potentiel, une potentialité de le faire. Dans Éphésiens 2, et verset 10, il est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce ne sont pas nos propres œuvres, ce ne sont pas nos travaux. On ne peut pas gagner notre salut, on n'est pas confus à ce sujet-là. Mes frères et sœurs, nous avons été appelés pour travailler à son œuvre. Si Dieu vous appelle à ce moment-ci, au temps de la fin, au cours des derniers jours, c'est qu'il voit en vous et en moi une disposition à travailler à son œuvre, pas simplement à rester assis et à regarder le monde se détruire. Matthieu chapitre 20, et nous allons commencer à lire au verset 1. Matthieu 20, verset 1. Il y a une parabole intéressante ici que le Christ donne. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Et je vous donnerai ce qui est convenable, comme pour les autres. » Spirituellement parlant, c'est ce que la plupart des gens font dans le monde. Ils attendent, tout simplement. Ils tiennent le temps, pour ainsi dire. Ils sont peut-être très occupés, bien sûr. Ils font peut-être beaucoup de choses. Ils sont très actifs à toutes sortes de choses. Leurs journées sont pleines, sont remplies d'activités de toutes sortes, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils accomplissent réellement sur le plan spirituel? Ils tournent en rond, tout simplement. Et si nous n'avions pas été appelés, c'est ce que nous ferions exactement la même chose. Dieu nous a appelés pour faire partie de son équipe. À ce moment-là, nous avons trouvé un sens à notre vie, un but réel, une raison de nous lever chaque matin et de faire des choses, de faire des efforts devant un grand but qui nous a été révélé. Nous faisons partie de la plus grande entreprise de l'univers. Et vous savez, dans les temps difficiles, dans les temps de perte, comme la famille Meredith connaît maintenant, dans le deuil, la raison d'être, lorsqu'on la connaît, ça fait toute la différence. Ça nous donne la force de continuer, le courage d'avancer, d'accomplir l'œuvre jusqu'au bout, jusqu'au retour du Christ, et à ce moment-là, de retrouver nos êtres chers qui seront ramenés à la vie. Voilà qui fait toute la différence. Toute la différence. C'est beaucoup plus enthousiasmant de travailler, de faire quelque chose vers un grand but que de ne rien faire et d'attendre. Il les a engagés, employés, et il les a envoyés travailler. On voit qu'il a appelé des gens jusqu'à la fin du jour. C'est intéressant d'y penser parce que Dieu va choisir des travailleurs additionnels jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin de cette époque présente. Il va continuer d'appeler certaines personnes. Vous qui avez été appelés, vous qui êtes venus en contact avec l'Église de Dieu depuis quelques mois ou une année ou trois années ou cinq années, votre appel est tout aussi important que l'appel de ceux qui ont été appelés il y a 10 ans ou 20 ans ou 40 ans. Et c'est intéressant aussi de réaliser qu'à la fin de l'histoire qu'on a vue, le point d'attention ou l'objectif du Christ, lorsqu'il a donné cette parabole des gens engagés pour aller travailler à sa vigne, son objectif était vraiment précis, c'est d'accomplir l'œuvre. Vous avez remarqué que tous ont reçu le même salaire. Et lorsque certains ont été dérangés à propos de ça, ils se sont fâchés à propos de ça un peu, il a dit, écoutez, mon but, c'était de faire l'œuvre. Voilà ce que je voulais faire, c'est ce que le Christ a à l'esprit. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Dieu veut que nous soyons disposés à travailler. Et il ne veut pas que nous nous comparions les uns aux autres. Ah, toi, tu as eu un denier. Moi, je suis là depuis plus longtemps. Je vais peut-être avoir deux deniers ou trois deniers. Non, il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. Dieu est juste envers tout le monde. Dieu nous a appelés à ce moment-ci de l'histoire pour travailler à son œuvre. Et si nous faisons partie de l'œuvre de Dieu aujourd'hui et que le Père nous a appelés, il voit en nous une habileté et une potentialité de travailler selon la volonté du Christ. Le Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce qu'on voit dans Jean 15 et le verset 16, c'est ce que le Père accomplit à travers Jésus-Christ. Encore aujourd'hui et jusqu'à la fin, ce sera ainsi. C'est intéressant. Ce qu'on appelle la première génération de chrétiens ont été choisis par Dieu, un à un. Mais que dire de ceux de la deuxième génération? Des enfants qui sont venus à l'Église avec leurs parents, est-ce qu'ils sont là simplement par la force des choses? Est-ce qu'ils sont arrivés là simplement dans le sillage de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas le choix, pour ainsi dire? Ça peut être un peu difficile pour ceux qui sont de la deuxième génération comme ça, de chrétiens. C'est comme si Dieu, d'une certaine façon, on peut penser ça, mais ce n'est pas ça. Comme si Dieu avait dit, bon, mais puisque vous êtes ici, allez, faites partie du groupe. Vous vous rappelez, dans certains sports, lorsqu'on choisissait les membres des équipes, par exemple, il y avait deux qui choisissaient dans le groupe qui était disponible, et on choisissait un d'un côté, l'autre de l'autre, jusqu'à la dernière personne qui restait. Et à la fin, parfois, les deux qui choisissaient disaient, non, prends-les, celui-là. L'autre disait, non, garde-les sur ton équipe. Vous avez peut-être été dans ce cas-là déjà. Est-ce que c'est comme ça, concernant ceux de la deuxième génération de chrétiens, comme si Dieu disait, bon, ben vous êtes là, c'est aussi bien que vous fassiez partie de l'équipe, tout simplement. Non, c'est pas ainsi. Dieu est en train de faire une œuvre jusqu'à la fin, et il veut des gens qui veulent travailler jusqu'à la fin, que ce soit de la première génération ou de la deuxième génération, tout comme ce fut le cas pour les Israélites sortis d'Égypte. Voyez-vous, ceux de la deuxième génération, ce sont eux qui sont entrés en terre promise et il a fallu qu'ils se tiennent debout sur leurs deux pieds solidement et qu'ils fassent ce qu'ils avaient à faire. Jeunes gens, si vous êtes chrétiens de la deuxième génération, vous êtes venus parce que vos parents étaient là, les choses peuvent être un peu différentes pour vous, mais l'appel n'en est pas moins très significatif et essentiel. Vous avez également été choisis pour faire partie de l'Église et Dieu veut que vous soyez sur son équipe. Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Dieu bâtit une équipe actuellement et il veut que tous les jeunes gens qui sont là à l'Église fassent partie de cette équipe-là et travaillent à l'œuvre. Ils ne sont pas moins importants que les chrétiens de la première génération. Vous ne seriez pas là si Dieu ne voyait pas le potentiel en vous. Verset 11, Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez ce qui arrive aux enfants lorsqu'on les met au travail? C'est arrivé à tout le monde. Je m'en rappelle moi-même. Quand vous demandez à un enfant de faire un certain travail, au bout de 3 minutes et demie à peu près, il regarde pour faire d'autres choses. J'ai été jeune, j'ai vécu ça, je comprends très bien. Ma mère m'envoyait dans le jardin pour ramasser des fèves et les rangs de fèves allaient à l'infini tellement c'était loin. On regardait ça et on disait, ça va prendre l'éternité avant de finir. Et voici que le chien arrive. Ah, ça, c'est enthousiasmant. C'est beaucoup plus intéressant de jouer avec le chien que de ramasser des fèves. Ou c'est encore plus intéressant de regarder une abeille ou de regarder par terre que de travailler. C'est comme ça quand on est jeune. Dieu nous dit, ne vous laissez pas distraire. En tant que chrétien mature, ne soyez pas enfantin spirituellement. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui arrive autour. Parce qu'il nous a dit, je veux que vous travailliez à mon œuvre. Je vous ai appelé et je vois la potentialité de le faire. Et je compte sur vous et je vais travailler avec vous. C'est puissant. Dieu voit ça dans ceux qu'il appelle, dans vous et dans moi. Autrement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, toutes les parties du corps bien coordonnées et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Voyez-vous, c'est magnifique. Ça nous montre que tous ceux qui sont là, jeunes et vieux, première génération, deuxième génération, font partie de cette œuvre pour l'accomplir, pour faire le travail que Dieu nous donne. Pourquoi avez-vous été choisi? Pourquoi êtes-vous ici, personnellement? Dieu voit en vous et en moi le potentiel de faire partie de son œuvre. Autrement, nous ne serions pas là, frères et sœurs. Nous serions en train de magasiner, où nous serions en train de réparer des choses à la maison ou aller acheter à rabais, comme ça a été le cas il y a quelques jours, les courses que les gens faisaient parce qu'il y avait des spéciaux autour de l'Action de grâce. C'était horrible à voir. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons simplement commencé. Il faut finir l'œuvre. Et Dieu veut des gens qui n'ont pas peur de travailler. Pour quelle autre raison Dieu vous a-t-il appelé? Parce qu'il sait que vous pouvez être un bon exemple. Il sait que vous pouvez être un bon exemple. Allons dans Deutéronome chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 5. Comme M. Wakefield l'a expliqué dans la sermonnette, l'ancienne nation d'Israël avait un rôle spécial à jouer et nous sommes bénis dans nos pays actuellement à cause de l'obéissance d'Abraham, mais à cause de la fidélité de Dieu par-dessus tout. Deutéronome 4, verset 5. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, c'est Moïse qui parle, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. » C'était le rôle que l'ancienne nation d'Israël devait jouer en observant les lois de Dieu. Ces nations entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » L'ancienne nation d'Israël devait être une nation modèle pour les nations de la terre. un exemple pour le monde entier, mais ils ont échoué. Et les descendants modernes israélites ne sont pas mieux. Nous sommes dans l'époque du moi d'abord, du matérialisme, de l'égoïsme. Quel exemple à donner au monde? Vous savez, comme on a vu à la télévision, dans la course aux aubaines, des adultes qui se battent littéralement pour avoir des jouets. Et vous savez, le monde n'a pas tellement une perception flatteuse des Américains. Ils nous voient comme des gens bruyants, crus et gloutons. La façon dont les médias décrivent l'action de grâce, la façon dont c'est célébré aux États-Unis, ça ressemble à ça. Ça tourne autour du fait d'ingurgiter le plus de dinde possible dans un repas et ensuite aller magasiner, acheter tout ce qu'on peut. C'est triste à voir. C'est vraiment malheureux de voir ça. Et c'est ce que le monde voit de la fête de l'Action de grâce célébrée aux États-Unis. Originellement, c'était une fête conçue pour être un moment de recueillement pour remercier Dieu de toutes ses bénédictions. Quel changement et quel exemple mauvais nos nations donnent en ce sens-là. Notre nation est en déclin incroyable. Les choses ont tellement changé. 1 Pierre chapitre 2. Et le verset 1. Il nous faut prendre la place de cette nation d'Israël ancienne. Nous devons donner le bon exemple. Verset 11, 1 Pierre 2. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tout un appel, toute une responsabilité. Dieu nous dit qu'il veut que nous soyons des exemples pour que les gens autour désirent être comme nous, nous imiter. Dieu veut que nous soyons ces exemples. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi, vous, s'il n'avait pas vu en vous cette possibilité, ce potentiel d'être un exemple sur lequel il peut compter pour montrer aux autres sa voie de vie? Dieu ne se trompe pas. Dieu ne nous choisit pas pour dire ensuite, « Ouf, je pense que je me suis trompé. Là, je pense que je me suis trompé dans ce cas-là. J'ai fait une erreur, je pense. » Je ne peux pas toujours avoir raison. Non, non, ce n'est pas le cas de Dieu. Nous devons choisir de répondre, mais lui ne se trompe jamais. Lui n'est jamais un échec. Il sait ce qu'il fait. Il est tout puissant. Matthieu 5 et le verset 13 dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qu'est-ce qu'on fait avec du sel qui n'a plus de goût? » Mesdames, qu'est-ce que vous faites avec du sel qui ne goûte plus le sel? Même chose pour une autre épice, ou comme le curry, par exemple. S'il ne goûte plus, vous le remplacez par un autre ingrédient qui assaisonnera vos mains. Que dire si notre vie était démontrée sur un écran géant derrière nous, que tout devienne visible, nos motifs, chaque moment intime même de notre vie, si c'était montré à l'écran, ce serait comment? Lorsque nous sommes chez nous, lorsque nous sommes sur la route, dans la circulation, tout ce que nous disons à notre conjoint, à notre conjointe, tout ce que nous disons à notre conjoint ou ce que nous ne disons pas, les sortes de regards que nous échangeons, si ça apparaissait sur l'écran, tous ces moments intimes aussi, tous nos moments intimes, si c'était montré à l'écran. Dieu veut que nous soyons un bon exemple en toutes choses, en toutes choses. Nous sommes sous le regard de Dieu. Le Christ a dit que tout ce qui est en secret sera amené à la pleine lumière. Ça met beaucoup de pression. Mais c'est ce que des colonnes ou des piliers font, sont capables de supporter la pression. Dieu ne nous aurait pas choisis s'il ne savait pas que nous puissions être un bon exemple et que nous puissions supporter la pression. Jamais vous ne pouvez vous douter qui vous observe. Vos enfants, un collègue de travail, un frère ou une sœur dans l'église, quelqu'un dans les magasins. Les gens vous voient agir. On a vu un film il y a environ 2 mois. Je pense que le titre, c'était 42. Ça concerne la vie de Jackie Robinson, un joueur de baseball. Ça semble être un récit exact, en autant que je peux voir. Mais à un moment de sa vie, Jackie Robinson était découragé à cause des mauvais traitements qu'il subissait et des critiques dures dont il était la cible. Il disait, je veux abandonner, mais son directeur lui a dit, non, écoute, les garçons de 8, 9 ans, 10 ans te regardent et observent tout ce que tu fais. Même les jeunes commencent à avoir la même façon de jouer à la balle que toi. Lorsque tu vas au bâton, les jeunes te surveillent. Tu ne peux pas te soustraire à ça maintenant. Tu es un modèle pour la jeunesse actuelle. C'est ce que son directeur lui disait. Frères et sœurs, on ne sait pas qui nous observe et on ne sait pas qui peut être touché par notre exemple. Peut-être qu'ils ne vous le diront pas chaque fois. Ils vont peut-être dire en eux-mêmes, tout simplement, « J'apprécie vraiment cette personne. J'apprécie vraiment son attitude, sa façon de réagir. » On est très touché et motivé par un exemple vivant qui est devant nous. Même l'exemple de quelqu'un qui rencontre des grandes difficultés, mais qui lutte, qui tient, qui avance, ça aide d'autres. Alors ne pensez pas que votre exemple est sans importance. Au contraire, Dieu vous a appelé pour être un exemple. Sinon, il ne vous aurait pas amené aujourd'hui à faire partie du corps du Christ, à faire partie de sa petite équipe en préparation. Apocalypse 3 et le verset 10, voyez ce qui est dit. Apocalypse 3 et le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, la grande détresse qui va venir bientôt sur le monde. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Voyez-vous, une colonne, un pilier. Et un pilier supporte la pression, et tient bon, et soutient la structure de tout l'édifice. Dieu crois que vous avez ce qu'il faut, non pas par vous-même, non pas par vos propres forces, mais si nous nous soumettons à lui, il sait que nous pouvons y arriver. Si nous avons cette attitude de soumission et de supplication envers lui, Dieu voit en nous la possibilité que nous arrivions à terme. Troisièmement, une autre raison pour laquelle Dieu vous a appelé vous, il vous a choisi vous parce qu'il sait que vous pouvez changer et vaincre. Il sait que vous pouvez changer et vaincre. Nous avons vu dans Apocalypse 3 que les Philadelphiens sont des gens qui vainquent, qui éliminent le mal de leur vie. Dr. Meredith est vraiment concentré à nous provoquer, à nous pousser à changer, et il nous aide à changer. Il nous montre que ce n'est pas suffisant de faire du surplace. Il faut avancer. Et aussi loin que je peux me rappeler en arrière, ça fait très longtemps que je suis dans l'Église, il a toujours fait ça et c'est inspirant pour nous. Nous avons besoin d'être encouragés dans ce sens-là. Ce n'est pas du perfectionnisme. Ce n'est pas d'être critique envers les autres ou de condamner les autres. Mais c'est de laisser Dieu nous perfectionner et nous raffiner. Dieu ne vous aurait pas appelé et Dieu ne m'aurait pas appelé jusqu'à ce point aujourd'hui s'il ne pensait pas que nous puissions changer et vaincre. Il sait qu'avec son aide, nous pouvons y arriver. Apocalypse 2, verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Tous les serviteurs de Dieu ont été des gens qui ont dû vaincre. Jacob, lorsqu'il est né, s'appelait Jacob, ce qui veut dire un profiteur, usurpateur. C'était son attitude. Il essayait de tirer avantage des autres. Comment est-ce que vous aimeriez ça? Être appelé profiteur ou profiteuse ou usurpateur, usurpatrice, que ce soit votre nom. Est-ce que ce ne serait pas joli? Non, je pense qu'on ne serait pas confortable avec ça. Mais Jacob a changé. Il est devenu tout à fait différent. Il a cessé d'être ça. Il a été converti. Et c'est pour ça que Dieu a changé son nom en celui de Israël, prince de Dieu. Nous devons tous changer, croître. Parfois, on peut se décourager parce que nous embourbons dans un certain problème ou dans une certaine faiblesse, mais Dieu n'est pas découragé pour autant. Dieu sait que si nous persistons, que si nous le supplions, il va nous aider et il va nous donner la force de vaincre et d'y arriver. Allons à Luc chapitre 22 maintenant. Luc chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 14. Quand on pense à notre appel, à la raison pour laquelle nous sommes ici, lorsque nous pensons à notre nation, à nos nations qui n'ont pas encore été appelées, des millions et des millions d'individus autour de nous, et à tous ceux autour du monde qui n'ont pas été appelés, ça nous montre à quel point l'occasion que Dieu nous donne d'être appelés maintenant à faire partie de son petit troupeau est précieuse. Nous devons apprendre à être un bon exemple et à changer. Verset 14, ça parle bien sûr ici de la dernière part que le Christ a pris avant de mourir. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe » et ainsi de suite. Et il a expliqué que ça représentait sa mort, la nouvelle alliance. Puis il a parlé de celui qui allait le trahir, qu'un d'eux allait le faire. On voit au verset 23, c'est très intéressant ce qui s'est passé ici. Et ils commencèrent, ses disciples, à se demander les uns les autres, qui était celui d'entre eux qui le ferait, qui trahirait le Christ. Imaginez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans le fond, ce qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est qu'ils pointaient du doigt les uns les autres. Il pointait un doigt accusateur en disant, « Ah, c'est peut-être lui qui va trahir le Christ. Ah non, ça doit être lui. » Voyez-vous, c'est ce que la Bible semble dire ici. Ils commencèrent à se demander les uns des autres qui était celui d'entre eux qui le ferait. Peut-être qu'ils sont allés jusqu'à pointer des doigts accusateurs comme ça. Et regardez le verset 24 tout de suite après. « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? » Imaginez-vous. Quel commencement glorieux de l'Église. Quel départ fantastique pour le corps du Christ dont nous faisons partie. Les premiers fruits, les prémices. Ceux qui vont assister le Christ pour administrer la terre et servir les humains. Voilà comment c'est commencé. Voilà les tout débuts. D'abord, ils se sont accusés les uns les autres, à savoir qui allait trahir le Christ, et tout de suite après, ils ont commencé à s'imaginer qui allait être le plus grand dans le royaume. C'est avec ces gens-là que le Christ a commencé son travail, son œuvre. Vous remarquez que Jésus ne les a pas rejetés. Il en a profité pour leur enseigner des choses. Verset 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Frères et sœurs, est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion idéale pour le Christ de dire « Je me suis trompé, ces 12-là n'ont pas d'affaires ici. » J'étais pour leur dire qu'ils vont régner sur 12 tribus, mais avec ce qu'ils viennent de faire, ça ne sera certainement pas eux qui vont occuper ces postes-là. Non. Le Christ savait qu'il pouvait changer. C'est pour ça qu'il ne les a pas rejetés. Est-ce que nous croyons que nous pouvons changer ou non? Nous sommes leurs descendants spirituels. Pensons-y. Ce sont nos ancêtres spirituels. Voyez l'attitude qu'ils avaient à ce moment-là et voyez le chemin qu'ils ont parcouru par la suite. Dieu nous a appelés, eux comme nous, pour faire partie de son Église en sachant que nous pouvions y arriver, que nous pouvions changer et vaincre, quels que soient nos problèmes, nos difficultés ou nos situations, quelles que soient les habitudes que nous devions briser. Nous sommes quelque temps après la fête des tabernacles maintenant, et à la fête, on nous a dit d'amener de la fête ce que nous avions appris pour le mettre en pratique, ici, à la maison, dans nos vies de tous les jours. La fête est passée déjà depuis plus de 2 mois, et nous sommes à une époque où nos nations, surtout aux États-Unis, sont supposées remercier Dieu, parce que c'est la fête de l'action de grâce. Ils ne le font pas vraiment, mais nous devons remercier Dieu. Alors que nous sommes au milieu de différents problèmes, est-ce que nous nous décourageons? S'il y a des obstacles qui se présentent à nous, ou s'il y a des pertes que nous subissons, comme nous avons vu ici au cours de la semaine dernière, la perte d'un être cher, nous ne devons pas nous laisser être découragés. Nous ne devons pas abandonner en pensant que nous ne pouvons pas y arriver. Ce n'est pas vrai. Dieu a vu en nous la possibilité d'y arriver avec son aide. Si nous avons besoin d'aide, demandons de l'aide. Si nous avons besoin de conseils, demandons d'être conseillés. Si nous avons besoin d'éliminer de mauvaises habitudes, faisons-le. Le temps est de plus en plus court. Le temps s'achève d'ici le retour de Christ. Il nous faut savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Pas parce que nous avons de grandes aptitudes ou de grandes habiletés ou une grande intelligence ou quoi que ce soit, mais parce qu'il voit en nous une attitude de soumission envers lui et de désir d'obéissance envers lui et qu'à partir de là, il peut accomplir des choses grandioses en nous si nous nous soumettons à lui. Allons à Psaume chapitre 19 maintenant. Psaume chapitre 19. C'est important, c'est essentiel que nous sachions pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous faisons partie du petit troupeau de Dieu aujourd'hui et pourquoi nous ne sommes pas ailleurs aujourd'hui en train de magasiner ou de faire d'autres choses et pourquoi Dieu nous a choisis un à un, que nous soyons de la première génération de chrétiens ou de la deuxième génération, des plus jeunes, ceux qui sont plus jeunes parmi nous. C'est important. Pourquoi il veut que nous soyons ici? Qu'est-ce qu'il voit en nous? Au verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme parce qu'il sait que nous pouvons changer. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant par sa puissance. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. notre nation plonge vers un précipice. Les gens autour de nous, aujourd'hui, mangent tant qu'ils le peuvent en cette fin de semaine d'Action de grâce, mais nous devons agir autrement, réaliser qui nous sommes et ce que nous devons faire. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Dans la version originale, fais que soient acceptables à tes yeux les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Dieu nous a placés dans son Église aujourd'hui parce qu'il voit en nous la possibilité, le potentiel de réussir. Sommes-nous meilleurs que ceux qui font leur jogging autour aujourd'hui ou qui vont à l'école ou qui vont travailler ou qui vont magasiner? Absolument pas. Dieu va leur donner à eux la même occasion que nous avons aujourd'hui. Il va leur donner plus tard, selon son plan. Mais s'il nous a appelés, nous, aujourd'hui, nous ne devons pas sous-estimer ce qu'il voit en nous. Et il veut utiliser ce potentiel-là, cette attitude de soumission envers lui. C'est majeur, c'est fondamental dans notre cheminement vers le succès. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et regardez bien, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est plus important que tout, que n'importe quelle richesse physique, matérielle. C'est ce qui nous a été donné par l'appel de Dieu. Bien sûr, Dieu nous a bénis abondamment sur le plan matériel, mais ce qui est le plus important, c'est son appel et ses précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Nous devons faire des choses. Il nous faut travailler. Il ne faut pas rester simplement assis en attendant. Ajoutez à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quelle occasion unique nous avons de devenir comme Dieu avec son aide, de penser de plus en plus comme lui, de développer le même caractère que celui de Dieu. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas créer instantanément dans un autre être, le caractère, parce que ça découle d'un choix libre. Nous devons choisir. Dieu nous a choisis, mais maintenant, le choix est à nous pour le reste de l'histoire. Qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons choisir de faire? Nous sommes à la fin de ce monde. Le temps est court. Dieu nous appelle à faire des choses spéciales. Ceux qui sont disposés à se soumettre à Dieu, ceux qui sont disposés à développer l'attitude plaisante à Dieu, à être de bons exemples et à changer, Dieu va leur donner la victoire. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Frères et sœurs, si Dieu nous a appelés aujourd'hui, c'est qu'il voit en chacun de nous une potentialité extraordinaire, souvent beaucoup plus que nous pouvons le percevoir. Il nous a appelés en tant qu'Israël spirituel pour être un exemple au monde. Et il sait, il croit que nous pouvons y arriver avec son aide. Profitons de cette occasion unique. n'échappons pas la balle, pour ainsi dire. C'est un privilège incroyable qu'à cette époque du temps de la fin, au cours des derniers jours où nous vivons, en préparation de régner sur le monde sous la directive du Christ, que Dieu vous ait choisi personnellement.